Bonjour, vous écoutez le 14e numéro de What the F Podcast, un podcast de Fania Noël. Bienvenue.
Destiné aux femmes victimes de violences conjugales, l'annonce de la levée du secret médical en cas de danger imminent est perçue comme une avancée. Mais pour la directrice, le plus important reste un accompagnement personnalisé, car les situations des victimes sont très différentes.
Imposer ça aux femmes, c'est aller à l'encontre de ce qu'elles, elles sont prêtes à mettre en place. Il y a des femmes qui sont dans des situations d'extrême danger, mais ces femmes, parfois, décident de ne pas tout de suite entamer des démarches, de ne pas tout de suite aller déposer plainte, de cheminer, de prendre le temps d'eux, de construire leur parcours, leur départ.
Cette nouvelle mesure permet aux professionnels de santé de prévenir la justice si une urgence vitale est constatée, une levée du secret médical approuvée par l'ordre des médecins, mais certains d'entre eux sont plus réservés.
Le problème, c'est quel est le délai qu'il y aura entre le signalement et l'intervention à domicile chez le patient, la patiente victime. Je pense qu'il faut un circuit court. On cherche à activer le levier médical, mais qu'il faut aussi que de l'autre côté, que le levier policier et justice soit puissant et efficace.
Même constat pour cette avocate lilloise qui dénonce une loi à double tranchant.
La proposition de loi telle qu'elle est rédigée, elle est plutôt bien encadrée. Le médecin doit uniquement dénoncer sans l'accord de la patiente lorsqu'il y a un danger immédiat. Néanmoins, ça peut aussi isoler la personne, puisqu'elle va l'interpréter comme mon médecin peut dénoncer.
Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Le premier, est-ce qu'il faut avoir les cheveux gras pour être militant ou intellectuel? Et le second, en lien avec le son que vous avez entendu en introduction, sur la levée du secret médical en cas de soupçon de violence conjugale et en quoi cette mesure est tout sauf une bonne mesure. Voilà. Donc, dans le vif du sujet, est-ce qu'il faut avoir les cheveux gras pour faire un bon militant ou pour produire de la pensée ou pour être une intellectuelle ou un théoricien ou un académique ou même avoir deux neurones. Parce qu'il semblerait que en France, du moins, ce que nous disent les médias, mais aussi des gens, des militants, que ce soit des militants, des gauchistes, majoritairement de la gauche majoritairement blanche, ou même des militants qui ne sont pas blancs, qui ont une certaine tradition militante, on va dire, qui est proche de ces gauchistes. Si on sort dehors, il y a une expression haïtienne qui dit que si on se montre au monde, là, qu'on sort dehors de chez soi, de son quartier, et qu'on est un peu présentable, on va dire que notre visage il est défroissé, comme diraient les Ivoiriens, je crois. Alors là, c'est problématique. Ça voudrait dire que vraiment, il n'y a pas de profondeur dans le discours. Et on a vu que ce genre d'attaque était utilisé par les médias, mais aussi utilisé en filigrane par des milieux militants contre notamment Assa Traoré. Alors, évidemment, il y a toute la conception sexiste du fait sur les femmes, la superficialité, le fait que, bon, si tu passes du temps à avoir un visage correct, présentable et des cheveux présentables, c'est que, bizarrement, tu ne peux pas faire deux choses à la fois, tu ne peux pas y réfléchir et avoir des vêtements repassés, des cheveux coiffés et un visage qui a pris soin. On dirait que tu ne peux pas faire les deux. Donc soit tu as des cheveux gras, tu as des vêtements pas repassés, tu es un peu en mode de schlag et après là, franchement, tu as une prestance, on va dire. C'est vraiment, on a la légitimité de parler. Alors, on voit que ça s'applique voilà, aux femmes, surtout, mais ça s'applique surtout à certaines catégories. C'est-à-dire que ça doit montrer ta légitimité dans un discours radical ou de gauche, etc. Sachant que d'autres personnes, que ce soit considérées comme les gens qui sont dans des partis politiques, comme l'ancien président, là, qui a utilisé près de 12 000 euros, je crois, ou plus, dans un coiffeur, dépensent des sommes astronomiques qui sont l'argent de tout le monde pour être genre présentable, avoir des costumes qui coûtent très cher, du maquillage, des cheveux tirés aux quatre épingles, des UV. Macron, quand il venait pendant le confinement, il était bronzé comme jamais, des ongles impeccables, etc. Que ce soit les présentateurs télé qui parlaient ou qui commentaient la coiffure d'Assa Traoré, par exemple, que ce soit les éditorialistes quand ils viennent sur des plateaux. J'en ai rarement vu avec d'événements de chez Jennifer ou de chez Bershka, Et donc voilà, donc ça s'applique à une certaine catégorie qui tout le monde doit jouer causette. Et quand je dis jouer causette, c'est que même les gauchistes de la gauche blanche qui aussi entretiennent ce côté de, en fait, si on est en mode schlag, ça veut vraiment dire qu'on est des vrais de la vraie. Beaucoup d'entre eux performent une sorte de, on va dire, ils font semblant d'être pauvres parce que souvent tu les vois comme ça, cheveux gras, pas lavés, habillés chez Emmaüs, et après c'est là que tu apprends que en fait, leurs parents sont propriétaires, pas de une, pas de deux, mais de trois maisons, qu'ils ont grandi avec tout le confort possible et que techniquement, acheter un jean convenable et aller de temps en temps se faire couper les cheveux chez un coiffeur, ça leur enlèverait rien dans leur vie ou très peu de choses. Donc voilà, donc après, il y a voilà, ce jeu de dupes et la question de la performance. Donc il faut performer quelque chose, la présentation de soi-même en sociologie. Donc il y a une façon dont on se présente soi-même. Donc il y a des gens qui se présentent eux-mêmes pour incarner quelque chose et ils veulent incarner une sorte de radicalité qui passe par avoir l'air un peu désintéressé par la chose physique, c'est-à-dire tu t'en fous de ton apparence et ça incarne la profondeur de ta pensée. Alors, ce genre de positionnement hein, qui est propre à chacun, pour moi, tout le monde fait ce qu'il veut, ils veulent faire ça, c'est leur choix. Ce genre de positionnement est en contradiction avec une autre philosophie, on va dire, idéologique culturelle. Ce sont ceux des cultures noires. Et quand je dis des cultures noires, que ce soit ouest-africaines, africaines subsahariennes ou caraïbéennes, que cette idée que en fait, même, surtout, c'est même pas même, quand ça va pas, c'est surtout quand ça va pas, il faut que tu sois présentable. Surtout quand ça va pas, il faut que tu sois présentable. Et vous voyez bien tout l'imaginaire qu'il y a autour, par exemple, des Afro-Américains et l'église le dimanche. On peut voir la même chose avec les femmes, avec leurs chapeaux, etc. On peut voir la même chose dans la Caraïbe, les baptêmes, les mariages. L'église, les enterrements, tout ce qui est dans qu'on sort, il y a une façon de se présenter pour montrer le fait qu'on n'est plus chez soi, on est à l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, bah, il faut être quand même l'enfant de quelqu'un. Et dans les cultures d'Afrique subsaharienne, surtout d'Afrique de l'Ouest, il y a vraiment cette esthétique, on va dire, cette esthétique qui n'est pas de l'esthétique juste de performance, mais de dire qu'on ne peut pas sortir comme ça n'importe comment, parce qu'on ne porte pas que nous-mêmes. Et je pense que, contrairement à d'autres démographies qui jouissent de l'individualité la plus totale, qui peuvent être qu'eux-mêmes, ils peuvent mal se présenter, ce sera qu'eux-mêmes, mais nous, on ne porte pas que nous-mêmes, on porte nous, on porte le nom qu'on nous a donné de nos familles, et on porte malheureusement tous les autres noirs. Donc on ne peut pas juste être voilà, dans l'individualité, dire ah, c'est quelqu'un de crado, mais il y a aussi un amour, je pense, un amour des peuples noirs pour l'esthétique, pour les choses belles, pour les choses qui nous mettent en valeur. Et j'en parlais dans un de mes podcasts présentateurs sur la beauté, sur le fait qu'il y a des études qui montrent que les femmes noires sont celles, malgré le fait que toute la société dise qu'elles sont les moins désirables, les moins belles, qu'elles n'ont pas les codes, sont celles qui ont le moins de problèmes d'estime d'elles-mêmes comparées à d'autres groupes, comparées au groupe des femmes blanches, des femmes asiatiques, des femmes arabes, non noires, etc. C'est que les femmes noires sont celles qui ont la meilleure estime d'elles-mêmes personnelle. Et pourquoi ? Et qu'est-ce que montre cette étude qui a lieu aux États-Unis ? C'est que pour elles, la beauté, c'est pas seulement voilà, tu nais et t'es belle. Genre, ça, c'est vraiment dans les cultures, on va dire, dans l'idéologie blanche de la beauté. C'est-à-dire, si tu nais, tu ressembles à Charlize Theron, c'est cool. Sinon, bah, c'est un peu raté. Il n'y a qu'une seule façon d'être belle. Elles prennent en compte qu'il y a plein de façons d'être belle. Et dans le fait d'être belle, il y a le charisme. Comment tu portes des vêtements, comment tu t'arranges tes cheveux, comment tu te maquilles, comment tu te présentes. Et tu peux être belle de plein de façons différentes et tu peux travailler ce côté d'être belle en fonction de ce qui tu es, de ta personnalité. Donc ça, c'est une question importante et la beauté est une question importante. C'est vrai que c'est pas valorisé dans une société patriarcale qui voit ça comme un truc de femme et que tous les trucs de femmes sont dévalorisés, même si les femmes sont jugées sur ça. C'est-à-dire c'est dévalorisé, mais à la fois, t'es jugée sur ça, sinon t'es une poissonnière, un machin, etc. Et l'autre chose, c'est que sur le fait que ça touche spécialement les femmes, mais aussi les noirs en général, parce qu'il y a eu ces critiques. Si vous regardez bien, l'esthétique générale de tous les groupes révolutionnaires noirs qui sont connus depuis, on va dire les années 50, on va prendre depuis les années 50, que ce soit les leaders et leaders, les icônes, on va dire, vous allez voir qu'ils ont tous une esthétique particulière, que ce soit en Afrique, Amil Cabral, il avait une esthétique, Lumumba, Thomas Sankara, Mariam Keba, Winnie Mandela, Nelson Mandela avaient une esthétique particulière. Aux États-Unis, il y a tout l'esthétique du Black Panther Party, mais l'esthétique particulière, même Toni Morrison, les académiques aussi, comme James Baldwin ou les auteurs, dans la Caraïbe. Il y a des esthétiques particulières, et quand on dit esthétique particulière, c'est vraiment le fait que je ne pense pas que vous puissiez avoir une image, et même aujourd'hui dans les personnes qui sont militantes noires en France ou en la Caraïbe, vous voyez bien qu'il y a un souci de la présentation de soi qui est toujours présent et dans tout le spectre. Donc ce souci de présentation de soi, il est à la fois ancré sur quelque chose de culturel, de ce qu'on apprend, et de familial, d'être bien présenté au vu de qu'on est toujours attaqué, soupçonné d'être sale, de pas être, etc. Donc il y a ça aussi, donc c'est fort, mais c'est aussi ancré culturellement du souci des choses belles, de la beauté, de travailler cette beauté, de la transfigurer malgré ce qu'on peut nous dire qu'on n'est pas beau. Mais il y a aussi ce souci de respecter son interlocuteur, de respecter soi-même, de montrer un certain soin de soi-même, c'est-à-dire prendre du temps pour se préparer, pour dire je vais dehors et je vais affronter le monde, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, affronter le monde. Je vais affronter le monde en ayant la meilleure présentation de moi-même, parce que c'est un combat. Et je pense que dans toutes ces remarques et ces attaques, et Toni Morrison en a subi, mais on voit aussi, il y a des recherches qui sont faites par des académiques et des universitaires, des femmes noires et plus des femmes noires universitaires dans le milieu universitaire américain ou britannique, qui fait qu'il y a beaucoup de remise en question de leur capacité intellectuelle, parce que elles se présentent avec un souci de leur esthétique, c'est-à-dire de leur esthétique vestimentaire, le fait de changer de cheveux. Et on sait que la suprématie blanche est obnubilée par ce qu'on fait avec nos cheveux, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont à nous, ils ne sont pas à nous. Donc il y a vraiment ce policing qui est fait là, cette police qui est faite sur comment on se présente soi-même. Et on peut retrouver une narrative qui est connexe, qui n'est pas la même, mais qui est connexe sur les attaques que subit quelqu'un comme Aya Nakamura, par exemple. Les attaques que subit quelqu'un comme Aya Nakamura sur le fait que comment ça se fait qu'elle se trouve belle. Les gens, ils pensent que oui, mais non, c'est pas parce qu'on ne trouve pas belle Aya Nakamura qu'on est misogyne noire. Ils pensent que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas ça, en fait. Le problème, c'est que les gens qui attaquent Aya Nakamura, ils ne l'attaquent pas parce que vous la trouvez belle, que les gens la trouvent belle, etc. Tout le monde peut trouver tout le monde belle. Ils l'attaquent parce que c'est insupportable pour eux, invivable, que Aya Nakamura se trouve elle-même belle. C'est-à-dire que ce soit des hommes, toutes races confondues, qui disent les canons, c'est ça, moi je ne te trouve pas belle. Si moi je ne te trouve pas belle, tu n'es pas censé te trouver belle toi-même, parce que c'est moi qui détiens l'estime que tu as pour toi-même. Ou d'autres femmes qui, elles, sont dans la compétition, qui disent après tout ce qu'elles, elles font comme effort pour se rapprocher, pour être machin, etc., on leur a dit qu'elle était belle, et toi qui n'es pas considérée qu'être belle parce que tu es tout ce qu'il y a de plus éloigné de la beauté, tu n'es pas blanche, tu n'es pas mince, tu es super grande, etc. Toi, tu te trouves belle, alors que moi, je fais des efforts et je ne suis même pas sûre de moi. Donc, il y a quelque chose d'invivable et d'insoutenable. Et c'est pour ça que, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, « Ouais, je trouve Jennifer Aniston belle. » Les gens, ils vont dire, « Ah, ok, c'est pas mon goût. » Mais ils vont trouver que c'est possible que tu peux trouver Jennifer Aniston belle, même si c'est par leur goût. Mais si tu leur dis, il y a certaines personnes, tu leur dis, « Tu trouves Aya Nakamura belle. » Alors là, on dirait, « Mais non !» Pourquoi ? C'est pas parce qu'elle est noire que tu vas dire ça. Donc l'hystérie que ça provoque est vraiment liée à ça. C'était une petite digression, une petite parenthèse pour revenir à ça. Donc, toute l'idée sur laquelle il faut avoir des cheveux gras, être mal présenté pour être digne ou pour être digne et qu'on considère qu'on puisse produire un discours poétique et une pensée poétique, ça vient à la fois d'une pensée extrêmement sexiste, mais une pensée aussi misogynoiriste et une pensée raciste, parce que ça attaque aussi ce côté qu'il y ait une seule façon de voir les choses, que culturellement, il faille être dans l'approche de la gauche blanche qui a mis les cadres, c'est-à-dire si tu as une pensée radicale ou anti-système, ou etc., il y a une façon de se présenter. Il faut se présenter comme un zadiste, comme un punk à chien, ou etc., ou sinon, en fait, c'est pas sérieux. Donc, il y a vraiment ça, il y a des cadres qui ont été mis, des cadres qu'on essaye d'entrer les gens dedans, et nous, on l'a bien vu, par exemple, comme je suis militante à Moissy, on le voit bien que dans les manifestations, même avec d'autres groupes de féministes, des féministes composés majoritairement de femmes blanches, je ne vais pas dire que c'est des féminismes blanches en tant que concept, hein, c'est des groupes considérés majoritairement de femmes blanches. Le fait que, par exemple, moi aussi, à toutes les manifestations qu'on va, on a des codes couleurs, on a une esthétique particulière, on sait que pour certaines, c'est « oh ben non, c'est pas... » Tu vois, genre, c'est ça renforce les stéréotypes de genre, semblerait-il, et qu'il y a une façon d'être quand on veut être pris au sérieux par un pan du spectre politique, mais justement, quand on est des militants noirs, etc., c'est pas ce spectre politique qui nous intéresse pour être pris au sérieux. On doit être pris au sérieux comme on est, dans notre spécificité, et aussi on doit être pris au sérieux par les nôtres. Et moi, je vous assure que déjà ma famille sont assez ils sont pas sceptiques, mais ils sont un peu assez, oh là là, mais pourquoi tu te mets dans ces bourbiers? Et ben s'ils me voient que je me mets dans ces bourbiers, et en plus ils voient des images de moi pas coiffée, avec des chemises froissées qui on dirait sort de mon lit, là c'est même pas, ils vont me dire mettre de bourbier, ils vont juste demander que j'arrête et ils vont m'enfermer pour que je fasse plus ça. Donc voilà, il y a la façon de se présenter soi-même qui est extrêmement liée à comment on a été éduqué culturellement et généralement dans les familles noires, dans les cultures noires, on ne, comme ils disent les Haïtiens là, on ne monte pas sur les gens n'importe comment. J'en ai parlé sur ma page Instagram, le projet de loi sur la levée du secret médical en cas de violence conjugale, et je le répète en audio pour ceux qui n'ont pas vu, mais pourquoi c'est une nouvelle fausse bonne idée du féminisme bourgeois et carcéral. Parce que la levée du secret médical en cas de violence conjugale s'inscrit dans l'extension toujours plus grande de la vision punitive et procédurière du féminisme bourgeois et carcéral. Ce qui risque de se passer, c'est que, imaginons en 2020, comme la loi vient passer. Donc on est en 2020, vous allez voir un médecin parce que vous avez été victime d'une violence conjugale, votre compagnon vous a frappé, vous allez voir le médecin pour avoir des soins. Ce médecin constate que ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prévient des autorités, vous, vous n'êtes pas au courant, vous revenez chez vous, vous re-rentrez dans tout ce cycle de violence que vous connaissez, vous rentrez, et la police débarque chez vous, veut interroger votre compagnon, vous interroger, parce qu'il semblerait que vous êtes victime de violence conjugale. Donc, vous n'avez pas été du tout préparé, vous êtes pris de court, votre compagnon, comme il est violent, violent, autoritaire, contrôle, fric, etc., il vous regarde en mode qu'est-ce que tu allais dire, etc. Et vous, comme vous n'étiez pas préparé, vous n'êtes pas prête à partir, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire non, pas du tout, je me suis cognée, je ne sais pas ce qu'elle raconte, c'est pas vrai, etc. Donc vous allez arriver à vous débarrasser de la police. De toute façon, il ne faut pas beaucoup de choses pour se débarrasser de la police dans ces cas-là, vu qu'ils ne sont pas connus pour leur pugnacité dans les cas de violence conjugale. Et vous allez rentrer chez vous, votre compagnon va faire des représailles sur vous, sur le fait que sur ça, donc vous allez subir encore plus de violence. La prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose, ben, vous n'allez pas aller chez le médecin, vous allez essayer de trouver d'autres choses pour vous soigner, d'autres, et parfois ne pas vous soigner. Il se trouve peut-être même que votre compagnon va vous interdire de retourner chez ce médecin, qui va surveiller encore plus vos déplacements, c'est-à-dire si vous avez des espaces de liberté, il va encore plus les surveiller, plus vous soupçonner, avoir plus de retaliation, c'est-à-dire vous allez subir les conséquences. Et ça, c'est en 2020. Et on va dire que en 2022, avec du travail, qu'il y a eu un déclic, du travail que vous avez fait sur vous, que vous avez aussi avec vos amis, vos proches, vous avez assez de ressources en vous, de ressources sociales, de ressources économiques, un plan, et vous êtes prête à partir. Donc, vous êtes prêt à partir avec vos gosses, avec vos trucs, vous êtes prête à partir. Vous vous préparez, vous partez, vous avez décidé, on va dire que vous êtes mariée, d'aller devant les tribunaux pour obtenir la garde de vos enfants, pour obtenir une pension alimentaire, pour obtenir du dédommagement, pour aller en justice, pour faire condamner votre compagnon, etc. Donc, vous allez en justice, expliquer, ben voilà, c'est un homme violent pendant 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien de temps, et maintenant, vous êtes prêt à vous séparer. Et l'avocat de votre compagnon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben en fait, est-ce que vous êtes en train de mentir maintenant pour avoir la garde de vos enfants? Parce que quand en 2020, votre médecin avait fait un signalement, vous avez dit aux policiers, on a votre déposition, là, que c'est pas vrai, vous avez retémoigné, regardez, on a des photos de vous en vacances, disant que c'est le meilleur homme du monde, vous souriez, vous n'avez pas l'air très... très, très contrainte, etc. Donc après, il va falloir tout justifier. Donc soit vous tombez sur un juge qui a deux jugeotes qui comprend ce que c'est l'emprise mentale, la peur, etc. Soit vous tombez sur un juge qui ressemble à beaucoup de juges et qui laisse le bénéfice du doute à votre compagnon et aussi donc vous n'obtenez pas justice. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est un problème au final, un problème juridique final, mais c'est aussi un problème sur le fait de la conception qu'on a, comment on répond aux violences conjugales. L'État aurait pu financer des centres d'hébergement d'urgence, financer des organisations féministes qui font du travail, parce que qui permettent aux femmes victimes de violences conjugales de comprendre... pourquoi elles restent et de comprendre pourquoi elles doivent partir et pourquoi elles peuvent partir, de leur redonner de la confiance de tout ce qui a été détruit dedans, de leur redonner la confiance et de leur redonner du pouvoir sur dire « je suis prête, maintenant je peux partir » au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui décide à leur place le timing et la temporalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'organisations féministes, d'une approche féministe des violences conjugales, d'une approche qui pense la temporalité de la victime, qui pense sa reconstruction, qui pense sa défense, son auto-défense pour lui donner des outils, au lieu de penser des choses comme ça, qui sont juste des lois qui sont inefficaces, voire qui auront un impact extrêmement négatif, surtout auprès de personnes qui sont dépendantes financièrement, administrativement, celles qui sont isolées, qui subissent des pressions familiales, qui risquent de perdre la garde de leurs enfants, leurs papiers, etc. C'est vraiment une loi qui a été faite par des gens qui, ça se voit, ils ne côtoient des personnes dans des situations de violence conjugale et pensent des lois comme ça qui... au final, vont éloigner des personnes des soins et vont couper la confiance. Et souvent, on a besoin que des gens restent avec des personnes hors de ce couple, hors de leur carte familiale ou amicale, de confiance pour quand elles sont prêtes, qu'il y ait une petite porte qui puisse s'ouvrir. Et aussi, ça voudrait dire que la police et la justice sont efficaces contre les violences conjugales, alors que bon, on connaît que ces deux institutions sont, en plus d'être inefficaces, sont complices des violences patriarcales, que ce soit le viol, les violences conjugales ou les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles. Donc voilà, on n'a jamais eu autant besoin de penser le consentement des femmes pour leur sortir des situations de violence. Et pour ça, il faut être organisé, avoir des organisations politiques autonomes, collectives, contre les violences patriarcales, qui pensent et l'autodéfense et aussi la riposte pour faire contrepoids et aussi travailler le rapport de force au niveau de l'État. Et on a vu que le gouvernement qu'on a actuellement est infecté de masculinistes et qu'on a une Marlène Schiappa qui est l'incarnation vraiment de l'instrumentalisation du féminisme à des fins sécuritaires, néolibérales, etc., au ministère de l'Intérieur. C'est une honte absolue. Et ce gouvernement, qu'on se le dise, est un ennemi des femmes, un ennemi du féminisme, un ennemi de tout le monde, de toute façon, que ce soit sur les questions de racisme, de lutte des classes, de féminisme. C'est un gouvernement réactionnaire. Et face à un gouvernement réactionnaire, la seule réponse possible, c'est l'organisation politique collective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter Fania Makaya tout collé ou sur Instagram Fania _ Noël. Je m'en vais en vacances. Je vous dis à la rentrée en septembre. Et on va se quitter avec Elsa Dorlin et un extrait de Se défendre, une philosophie de la violence. Suivi d'un morceau de Compas Impossible et Felicia Ross et le morceau Overdose. Bel été. Dans le contexte républicain, le droit de porter une arme constitue un véritable enjeu quant à la reconnaissance de la citoyenneté. Les tentatives pour dégenrer et déracialiser l'héroïsme civique promu par les idéaux de la Révolution permettent ainsi de dénoncer les interdits qui pèsent sur les femmes, les hommes esclaves ou libres de couleur. Mais si l'un des enjeux de l'accès aux armes est bien pour ces exclus de l'universel leur inclusion dans la citoyenneté active, ce n'est pas le seul. On y voit aussi la possibilité d'y acquérir une formation martiale nécessaire à la lutte sociale. Le problème de ce point de vue est que ne pas avoir le pouvoir de défendre la patrie équivaut à ne pas avoir le pouvoir de se défendre, à rester désarmé dans la guerre continuée pour l'égalité. On pourrait ainsi, en inversant les termes, dire que l'inclusion dans un corps armé permet un accès à la maîtrise des armes et aux savoirs martiaux. À cet égard, plutôt que de monopole de la violence légitime, on pourrait parler de gestion sociale de la martialité. Cette formule, forgée sur le modèle du concept de gestion sociale de la reproduction, défini par l'anthropologue féministe Paola Tabe, insiste sur l'idée qu'un continuum de pratiques d'armement, au-delà d'un seul usage codifié ou monopolistique des armes, ces pratiques font l'objet d'une gestion sociale discriminante, selon la classe, la race ou le sexe notamment, dont il est nécessaire de faire l'histoire. Cette expression permet aussi de mettre en évidence une division du travail martial, une division sexuelle, raciale de ces tâches. Par quelle technologie de pouvoir discriminante a-t-on réglementé l'accès de certaines catégories du peuple à certaines armes ou ressources défensives? Quels ont été les discours et les pratiques qui ont contesté cette division? Quelles tactiques de détournement, quels usages transgressifs d'objets a priori inoffensifs, les désarmer, ont-ils et ont-elles dû inventer dans leur lutte? Un exemple paradigmatique pris dans l'histoire de la Révolution française est celui des femmes à peine tolérées à écouter les débats des assemblées révolutionnaires qui tricotaient pendant que les orateurs échangeaient sur les limites des droits universels. L'activité signalée par le mot « tricoteuse », celle d'une paisible mère de famille, est positive. Mais s'échappant d'un coin de l'âtre pour prendre place sur la scène publique, déplacée, elle est dotée d'une charge négative. Et dans l'imaginaire, les aiguilles sont aussi symboles de cette perfidie. Elle qui pourrait devenir dangereuse, arme, ne disant pas leur nom, instrument de travail dévoyé à des fins sanglantes. Comme le rappelle l'historienne Dominique Godinot à propos des pétitions de femmes de 1792, la question de l'armement est un enjeu central dans la mobilisation populaire et féminine pour l'abolition de la distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs. Parmi les citoyens dits passifs, qui revendiquent d'être inclus dans la garde nationale au nom du droit naturel à la défense d'eux-mêmes et de la patrie, les citoyennes révolutionnaires sont l'avant-garde. Les réactions moqueuses, méprisantes, agressives des députés se doubleront d'une forme de panique suspicieuse doublée d'une surveillance policière constante. L'armement des femmes ne constitue quasiment jamais un cas de conscience politique, ni même un enjeu philosophique relatif à la question de l'achèvement de la révolution. En revanche, les femmes en armes représentent une menace en soi. Un rapport de police daté du 18 et 19 mai 1793 relate « Des femmes se disant de la société fraternelle se sont portées en foule aux Jacobins pour exiger des députés patriotes la suppression par la Convention des places privilégiées dans les tribunes. La plupart de ces femmes sont armées de poignards et de pistolets cachés. Aussi craint-on au premier jour quelques scènes sanglantes et que de jeunes aristocrates ne se glissent parmi elles en déguisant leur sexe. On présume que des malveillants, sous le voile du patriotisme, ont excité ces héroïnes révolutionnaires à s'ameuter et prendre les armes, afin de dissoudre la Convention et de faire couler le sang des patriotes. Tout au long du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, les revendications féministes, les mouvements de femmes, notamment les soulèvements féminins populaires, sont régulièrement appréhendés comme une mutation de genre monstrueuse. Les femmes du peuple, notamment, sont qualifiées de viragos, femmes viriles, qui contreviennent à l'ordre des sexes tout autant qu'à l'ordre social. Comme si toute revendication de droit équivalent à une forme de virilisation, à un travestissement et à un changement de sexe et à une inversion sexuelle. Or, dans ce rapport de police, réapparaît plutôt l'ancien motif de l'hétéronomie des femmes, une représentation issue de l'anthropologie philosophique antique, maintes fois déclinée, qui se traduit dans l'ordre politique par l'idée que les femmes ne peuvent qu'être possédées et les mouvements féminins qu'infiltrer. Défense de soi, défense de la nation, dans « Se défendre, une philosophie de la violence », Elsa Dorlin. Li bagay pou l jan, fwa, se pa di, se pa di.